Théologie fondamentale, Père Philippe, 18 janvier 1984, Saint-Joseph.
Qui sont des charismes, le charisme de sagesse, le charisme de science, le charisme d'interprétation, le charisme de discours. Hein. La raison naturelle de l'homme peut arriver à les connaître, encore que la clarté de la lumière divine leur confère une évidence supérieure. Donc là, le critère est beaucoup plus difficile. Est-ce que vous avez vraiment le cerveau sapientiel? Le cerveau sapientiel ne vous fait pas dire des choses que vous ne pourriez pas découvrir par le don de sagesse. Le don de sagesse vous permet de vivre dans l'intimité de Dieu, de contempler. Donc, le cerveau sapientiel permet de dire avec plus de clarté et de précision certaines choses que je pourrais très bien connaître par le don de sagesse, don du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment clairement. Parce que ça, c'est intéressant et c'est très important au point de vue pratique. Au point de vue direction spirituelle, c'est très important ça, de bien comprendre ces choses. Au point de vue de la direction spirituelle, il est essentiel de distinguer les charismes et la vie en profondeur divine. C'est essentiel. Il ne faut pas mettre les charismes partout, et il ne faut pas mettre les charismes au-delà de la vie intérieure. La vie intérieure, c'est ce qui finalise les charismes. Les charismes sont finalisés par la vie intérieure. La vie intérieure, c'est la vie des vertus théologales sous la mouvance des dons du Saint-Esprit. Donc, du don de sagesse. Alors, le sermo sapientiae, c'est un charisme. C'est un charisme qui permet de communiquer aux autres certaines vérités divines très difficiles à dire. Et de les dire avec précision, avec netteté, avec clarté. Sermo sapientiae. Il y a un charisme. Je crois qu'il y a un charisme pour les professeurs de théologie. Heureusement, ils seraient en dehors des charismatiques. La théologie, elle s'enseigne par miséricorde pour les autres. Le professeur de théologie n'a pas besoin pour lui d'enseigner la théologie, mais il a besoin pour les autres. Donc c'est pour les autres. Si c'est pour les autres, c'est dans la ligne du charisme. Et pour pouvoir enseigner le mystère divin caché avec précision et clarté, il faut un charisme. Il faut le charisme du cerveau sapientiel. Ça, c'est important de comprendre. Et c'est pour les autres, puisque le charisme, c'est pour les autres. Ça ne sanctifie pas le professeur de théologie d'avoir un charisme de cerveau sapientiel. Mais ça aide les étudiants. Beaucoup. Parce que s'il n'a pas le charisme du cerveau sapientiel, il fera des choses brouillonnes, extrêmement difficiles à comprendre, donc on n'y comprendra rien du tout. Et si tout d'un coup on se dit, mais non, c'est beau, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, comme c'est simple. Ah, c'est le cerveau sapientiel. Commode hein, à discerner. Parce qu'il faut à la fois l'étude, il faut à la fois la réflexion, il faut à la fois la méditation, puis l'Esprit Saint qui met son petit grain de sel en plus. Un petit quelque chose, sermo sapientiae, un petit quelque chose qui vient d'en haut, un souffle qui vient d'en haut. C'est très beau, du coup, ça. Et ça, pour l'enseignement de la théologie. Le cerveau sapientiel. Le cerveau sapientiel fait partie des charismes. C'est même le charisme par excellence. C'est le charisme par excellence. C'est communiquer la grandeur du mystère de Dieu. Un vrai théologien doit pouvoir enseigner avec le cerveau sapientiel. Et si les théologiens n'ont plus le cerveau sapientiel, ça prouve que peut-être ils ne contemplent plus assez. Ça leur est donné gratuitement pour l'enseignement, mais c'est quelque chose de très grand. Bon, alors, il faut comprendre le don de sagesse et le cerveau sapientiel. Le don de sagesse, habitus contemplativus. C'est un habitus contemplatif, le don de sagesse. Tandis que le cerveau sapientiel, c'est communiquer aux autres le contenu de ma contemplation. C'est de communiquer aux autres l'ineffable. C'est de communiquer aux autres le contenu de ma contemplation. À l'istradere. C'est de communiquer aux autres. C'est un mot sapiens. Alors, l'enseignement ou la méditation. Alors vous voyez que le sermo sapientiae n'est pas par rapport au contenu, mais par rapport à la manière de le communiquer. Tandis que le don de prophétie, le charisme de prophétie, c'est par rapport au contenu lui-même. Pas seulement la manière. Je ne peux pas me dire prophète parce que je dis avec élégance des choses qu'on dit ordinairement d'une façon un peu difficile. C'est le sermo sapientiae et c'est pas la prophétie. Avec élégance, ça veut dire avec clarté. Quant à la foi, bien qu'elle porte sur des réalités invisibles à l'homme, cependant, elle ne donne pas la connaissance des vérités que l'on croit, mais elle permet seulement à l'homme d'adhérer avec certitude aux vérités qui sont connues par d'autres. L'objet formel dans la connaissance prophétique, c'est la lumière divine. Formalé. Dans la connaissance prophétique, c'est la lumière divine. Et c'est de l'unité de cette lumière que la prophétie tire sa propre unité spécifique, malgré la diversité des objets que cette lumière manifeste aux prophètes. Donc là, c'est tout simplement la distinction entre la diversité des objets connus et l'unité de la raison formelle sous laquelle je connais. Il y a une unité dans la prophétie. C'est de tout connaître directement dans la lumière de la révélation. Mais la prophétie peut s'étendre à des quantités de réalités, pas seulement au futur contingent. Elle nous fait connaître l'invisible que, d'ordinaire, on ne connaît pas. Alors, article 4. Le prophète connaît-il par l'inspiration divine toutes les vérités prophétiques ? Je prends tout de suite le corps de l'article. On dit dans Saint Grégoire, l'esprit de prophétie peut avoir pour objet le présent, sans toucher à l'avenir, ou sur l'avenir, sans viser le présent. Le prophète ne connaît donc pas toutes les vérités prophétiques. Heureusement, le prophète connaît certaines vérités prophétiques, mais pas toutes les vérités prophétiques. C'est pour ça qu'on peut opposer un prophète à un autre. Cependant, des réalités diverses ne sont nécessairement réunies que s'il y a un élément qui les rattache toutes et dont chacune dépend. On a montré plus haut que les vertus doivent nécessairement se trouver toutes ensemble à raison de la prudence ou de la charité. Or, toutes les vérités qui sont connues par un principe qui sont liées les uns aux autres dans ce principe et en dépendent chacune. Or, toutes les vérités qui sont connues par un principe, par un seul principe, sont liées les unes aux autres dans ce principe. Et en dépendent chacune. Voilà pourquoi celui qui connaît parfaitement un principe, selon toute sa force, saisit en même temps toutes les vérités qui dépendent de lui. En saisissant le principe, je saisis tout ce qui dépend du principe, tout ce qui est virtuellement contenu dans le principe. Mais celui qui l'ignore, ou ne le connaît que d'une manière générale, ne saisit pas nécessairement toutes les vérités qui en sont dépendantes. Il a besoin, au contraire, que chacune de ces vérités lui soit montrée en elle-même. Il en résulte que certaines peuvent être connues et d'autres ignorées. Or, le principe de toutes les réalités qui sont manifestées d'une manière prophétique par la lumière divine, c'est la vérité. Le principe de toutes les réalités qui sont manifestées d'une manière prophétique par la lumière divine, c'est la vérité. C'est la vérité première elle-même, que les prophètes ne peuvent voir en elle-même. Il n'est donc pas requis qu'il connaisse toutes les vérités prophétiques, mais chaque prophète n'en saisit que quelques-unes, suivant la révélation spéciale qui lui a été donnée. Donc, vous voyez, c'est assez simple à comprendre. Hein. J'espère que vous voyez. Le don de prophétie voit tout dans la lumière de la vérité prophétique. Le lui-même du prophète dépend directement de la vérité première. La vérité première, je ne la vois pas. Le prophète demeure dans la foi. Porte directement de cette vérité première. La foi du prophète fait que cette vérité première est connue dans les ténèbres, dans l'obscurité. Le prophète peut avoir l'évidence que Dieu lui parle, mais il n'a pas l'évidence de la clarté de Dieu. C'est l'évidence inattestable. Il a l'évidence de ça. C'est pour Jeanne d'Arc, on voit ça d'une façon très très nette. C'est très net. C'est un cas de prophétie très, très marquable, n'est-ce pas ? Et très intéressant, parce que c'est un charisme, on ne peut pas nier. Alors, on voit très bien, elle a l'évidence que ses voix lui disent la vérité. Et elle souffre de ne pas pouvoir communiquer aux autres cette même évidence. Mais elle a l'évidence. Elle n'a pas l'évidence de la lumière de Dieu, mais elle a l'évidence qu'elle est éclairée par Dieu, illuminée par quelque chose qui n'est pas d'ordre naturel. Le prophète peut avoir l'évidence inattestantée. L'évidence inattestantée, c'est d'avoir l'évidence que je suis mu par une lumière qui n'est pas de moi. Si vous n'êtes pas prophète, vous n'avez pas. Pas d'évidence inattestantée. Tandis que si vous êtes prophète, vous pouvez l'avoir, pas nécessairement. Parce qu'il y a des degrés dans la prophétie. Il y a une prophétie parfaite où on a l'évidence inattestantée. Et quand la prophétie est inférieure, on n'a pas l'évidence inattestantée. Jean Saint-Amand développe ça. Il développe énormément cette question de savoir qu'est-ce que représente cette évidence inattestantée du prophète. Il a dit, je suis sûr que je vais parler. Je suis sûr. Mais je ne sais pas ce que veut dire ce qu'il me dit. Les petites voyantes, je suis sûr que Marie m'a parlé. C'est impossible. Alors évidemment, c'est pas commun de savoir, parce que ça peut être une espèce de certitude intérieure qui est purement psychologique et qui n'est pas toujours divine. On en verra ça dans les effets. On jurera là par ses fruits. Mais ils ont l'évidence inattestante. C'est l'évidence d'être illuminé. Ils sont dans l'obscurité de la foi et ils ont l'évidence d'être illuminés par Dieu. Et alors cette lumière porte sur toute une série de vérités. Et pas sur toutes. La vérité première porte sur tout, mais le lui-même du prophète porte sur une partie. Un petit secteur particulier. Là, une lumière. Je lis, je vois. Très curieux de vraiment voir ceux qui ont cette vision particulière. Or, le principe de toutes les réalités qui sont manifestées d'une manière prophétique par la lumière divine, c'est la vérité première elle-même, que les prophètes ne peuvent voir en elles-mêmes. Il n'est donc pas requis qu'ils connaissent toutes les vérités prophétiques. Mais chaque prophète n'en saisit que quelques-unes, suivant la révélation spéciale qui lui a été faite. Participation à la lumière de Dieu, c'est une participation à la lumière de Dieu. Alors vous voyez les deux participations. La lumière de foi. La lumière de foi est une participation à la vérité première. Le lumen du prophète, le lumen prophétique, est une participation à la vérité première. Ce sont deux participations totalement différentes. Il y a une participation substantielle à la lumière de Dieu, et il y a une participation moins substantielle qu'est l'oumène prophétique. Le lumen prophétique va moins loin que l'oumène de foi, c'est bien évident. Le lumen prophétique est ordonné à la lumière de foi. Parce que la lumière de la foi, c'est une participation à la lumière, à la vérité première, en vue de voir, en vue de la vision béatifique. Par la foi, je suis orienté vers la vision béatifique, et un jour, je vais l'étudier tel qu'il est. Tandis que le lumen de prophète n'est pas ordonné immédiatement à la vision béatifique. Il est ordonné immédiatement. Il n'est pas ordonné directement. Heureusement, parce que si c'est avec les prophètes qui étaient ordonnés à la vision béatifique, ils seraient tout en mieux. On serait tous prophètes à un moment donné. On a tous été prophètes à un moment donné dans notre vie. Tous, on a dit des choses, mais on n'avait peut-être pas l'évidence in intestante. J'ai bien dit, je l'avais dit d'avant, c'était bien ça. On a été comme poussé pour dire quelque chose. Vous verrez, ce sera comme ça. J'ai beaucoup prié, ce sera comme ça. Et puis la chose arrive. Est-ce qu'on est prophète? Difficile, hein, savoir. On n'a pas eu l'évidence que Dieu se servait de nous pour être prophète. Si on avait eu cette évidence, ah, alors à ce moment-là, oui. Si on ne l'a pas eu, on peut être prophète. On a averti certaines choses, on a dit certaines choses, ce sont réalisées. Vous verrez, parce qu'une prudence très éclairée peut arriver à dire ça. Oui, dans une prudence très éclairée. Vous verrez, si vous faites alliance avec cette personne, vous verrez ce qui arrivera. Puis, 10 ans, catastrophe. Oui, je vous l'avais dit. Est-ce que vous avez été prophète? Ou tout simplement, est-ce que vous avez eu tout simplement un peu, hein, un peu d'intelligence pratique et le nez creux qui vous disait dire, vous, attention, hein, ça vous mènera loin. C'est pas toujours commun de discerner ces prophètes ou pas prophètes. C'est pas toujours commun. Mais de temps en temps, on peut très bien sentir que Dieu nous donne une lumière particulière, alors l'évidence in intestante pour avertir. Attention, attention. Alors, voyons maintenant les objections. Oui, il semble, oui, on lit. Il semble que oui. On lit, en effet, dans le prophète Amos. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ça, c'est une très belle phrase. Non faciet dominus verbum, nisi revelaverit, secretum suum ad servo suos prophetas. Or, toutes les vérités qui sont révélées prophétiquement font partie de ce secret divin. Il n'est donc aucune de ces vérités qui ne sont révélées aux prophètes. Alors, réponse de saint Thomas. Le Seigneur révèle aux prophètes tout ce qu'il est nécessaire à l'instruction du peuple. Omnia puissant necessaria ad instructionem fidelis populi. À l'instruction du peuple fidèle. Cependant, il ne révèle pas toutes les vérités à chacun des prophètes, mais seulement certaines d'entre elles à tel ou tel prophète. C'est pour ça qu'il faut courir d'un prophète à l'autre, hein, oui. Pour avoir toutes les pièces éclairées. Non, jusque maintenant, je n'ai que cette pièce-là éclairée. Je sais qu'il y a un prophète là, alors je vais y aller. Deux pièces éclairées, ça, c'est déjà quelque chose. Hein. Alors, troisième pièce éclairée. Attention, attention. Attention. Parce que c'est intéressant de voir cette chose-là. Hein. Chaque prophète, il a une lumière donnée. Vous voyez, ça fait comprendre les révélations, ça. Les révélations de la Très Sainte Vierge, qui impliquent presque toujours un aspect prophétique. Presque toujours. Mais Fatima, il y a un aspect prophétique. Troisième secret de Fatima. L'aspect prophétique, tellement difficile à comprendre que les papes ne l'ont pas dit. Et vous savez qu'en Allemagne, il y a un étudiant qui s'est précipité sur le pape, à Fulda, et qui a dit au Très-Saint-Père, comment se fait-il que les papes n'ont pas révélé le troisième secret de Fatima. Alors le pape a répondu que le troisième secret de Fatima était quelque chose de tellement extraordinaire que les papes ont jugé bon de ne pas le révéler, pour ne pas éveiller trop la curiosité des gens. Et qu'il fallait plutôt comprendre que nous étions tout proches d'événements très importants. Et le Saint-Père a ajouté, ces événements sont très importants. Les événements très importants du troisième secret de Fatima sont proches. Et il a dit, c'est pour ne pas exciter la curiosité. Il ne faut pas exciter la curiosité. Et c'est très vrai, il ne faut pas exciter la curiosité. Parce que les gens chercheraient plus. Et puis il a donné une autre raison, il ne fallait pas que ce secret de Fatima puisse servir à la stratégie des communistes. C'est très curieux. Ça leur donne des idées, quoi. Je vous donnerai exactement, parce que c'est paru dans un journal allemand et le texte circule actuellement. C'est intéressant à voir, parce que c'est quand même une précision assez nette par rapport au troisième secret de Fatima. Mais vous voyez, le troisième secret de Fatima, c'est de l'ordre prophétique. C'est une prophétie de ce qui va arriver, nécessaire au peuple fidèle, mais nécessaire au pape qui conduit le peuple fidèle. Ad instructionem fidelis populi. Et chaque prophète a une certaine révélation, mais non pas toutes. Et ce qui est révélé, c'est ce qui est nécessaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop curieux. Donc celui qui court d'un prophète à l'autre, parce qu'il y en a beaucoup de prophètes hein, actuellement, il y en a des quantités, vous savez. Des gens qui vous disent des choses assez extraordinaires. Alors est-ce qu'ils sont prophètes ou pas prophètes? Dans 10 ans, on le verra. Parce qu'on verra si ça s'est réalisé tel qu'ils l'ont dit. Mais ils sont nombreux, les prophètes, aujourd'hui. Dans les temps de crise, ils sont toujours très nombreux. Les bons et les mauvais. Les faux et les vrais. Mais les faux, ils ne sont pas nécessairement avec de mauvaises intentions, mais parce qu'ils sont très secoués. Alors, leur affectivité étant très secouée, ils ont des rêves. Ils ont des imaginations étonnantes. Alors, est-ce que ces rêves sont prophétiques? Est-ce que ces rêves ne sont pas prophétiques? Discernement difficile, mais important. Alors, deuxième objection. Les œuvres de Dieu sont parfaites, dit le Deutéronome. Or, la prophétie est une révélation divine, comme on vient de le dire. Elle est donc parfaite. Ce qui ne serait pas si les vérités prophétiques n'étaient pas toutes révélées aux prophètes. Car d'après le philosophe, qui vient corriger le Deutéronome, le parfait, c'est ce à quoi rien ne manque. Les vérités prophétiques sont donc toutes toujours révélées aux prophètes. Donc, les vérités prophétiques sont toutes révélées aux prophètes. Alors, réponse. La révélation divine est comme un genre, ça c'est encore mieux. Prophetia est sicut quidam imperfectum in genere divine revelationis. Ça c'est très très intéressant. La révélation divine est comme un genre dont la prophétie constitue un degré imparfait. La traduction n'est pas bien, il ne faut pas renverser ce que dit saint Thomas. Vous voyez, saint Thomas commence par, il dit, la prophétie est comme quelque chose d'imparfait dans le genre de la divine révélation. C'est beaucoup plus clair quand on lit le latin. La prophétie est quelque chose d'imparfait dans le genre de la révélation divine. La révélation divine recouvre des quantités de choses, puisque la révélation divine recouvre la foi, ce que nous disions tout à l'heure, et recouvre la prophétie. Eh bien, par rapport à la révélation divine, la prophétie est quelque chose d'imparfait. La foi est plus parfaite que la prophétie, c'est bien évident. Il vaut mieux avoir la foi que d'être prophète. Évidemment, on peut gagner plus d'argent. Mais la foi est plus parfaite, beaucoup plus parfaite. Elle est beaucoup plus proche de la révélation divine. Elle est adéquate à la révélation divine, la foi. Voilà la prophétie. Toute la révélation divine officielle, je la reçois dans la foi. Donc la foi est adéquate. Tandis pas la prophétie. Donc c'est pour ça qu'on dit la révélation divine est comme un genre dont la prophétie constitue un degré imparfait. C'est juste, mais j'aime mieux suivre le texte de saint Thomas qui est plus précis. Voilà pourquoi saint Paul écrit aux Corinthiens que les prophéties prendront fin, et que la prophétie n'est qu'une connaissance partielle, c'est-à-dire imparfaite. La perfection de la révélation divine se réalisera au ciel. Aussi, ajoute-t-il, quand sera venu ce qui est parfait, ce qui n'était que partiel prendra fin. Alors la foi aussi est partielle, mais d'une autre manière. La foi est partielle parce qu'on est dans l'obscurité. Donc la foi est imparfaite à cause de ça. Tandis que la prophétie est imparfaite parce qu'elle ne regarde qu'une partie des vérités. Il n'est donc pas nécessaire que rien ne manque à la révélation prophétique. Il faut seulement qu'il ne manque rien de ce à quoi la prophétie est ordonnée. C'est évident. La prophétie est ordonnée non pas à la révélation exhaustive, elle est révélée à ce qui est nécessaire pour le salut du croyant. Elle est ordonnée à ça. Elle est nécessaire pour le salut du peuple fidèle. Alors, tout ce qui est nécessaire au salut du peuple fidèle sera donné par la prophétie. Mais ce qui n'est pas nécessaire au salut du peuple fidèle n'est pas donné. Parce que Dieu connaît tout, alors il pourrait me révéler tout. Il pourrait me révéler ce qui se passe actuellement en Chine, à tel endroit. Il pourrait. Mais ce n'est pas nécessaire à mon salut. Et ce n'est pas nécessaire au salut du peuple chrétien dans lequel je me trouve. Donc, il existait. Alors, dernier point, dernière objection. La lumière divine qui cause la prophétie est plus puissante que la lumière de la raison naturelle d'où procède la science humaine. Or, l'homme qui possède une science connaît tout ce qui se rapporte à cette science. Ainsi, le grammairien connaît toutes les choses de la grammaire. Le prophète connaît donc toutes les réalités prophétiques. Merveilleux pour un examen, hein ? De omni re scibili, hein, la licence de philosophie scolastique. Hein, elle doit regarder toutes les choses qui sont connaissables. Alors, saint Thomas répond, le savant saisit les principes scientifiques dont dépendent toutes les vérités du même ordre. Ainsi, s'il possède parfaitement une science, connaît-il toutes les vérités qui s'y rapportent. Mais le prophète ne saisit pas en lui-même le principe de toutes les connaissances prophétiques, c'est-à-dire Dieu. Le cas du prophète n'est donc pas le même que celui du savant. C'est tout à fait différent. Donc c'est tout à fait, il faut comprendre par là le but de la prophétie, le sens de la prophétie et comment la prophétie me met en liaison directement avec la vérité première, mais de façon partielle. Alors, article 5, le prophète discerne-t-il toujours ce qui relève de son esprit propre et de ce qu'il dit par l'esprit de prophétie ? Ah, c'est ça que je disais tout à l'heure. Hein. Tout ce que nous avons prophétisé dans notre vie, est-ce que nous sommes sûrs d'en avoir l'évidence ? C'est l'évidence inattestable. Alors, voici ce que dit saint Thomas. Saint Grégoire écrit, parfois les saints prophètes, dans l'exercice fréquent de leur ministère, publient, lorsqu'ils sont consultés, des oracles qui viennent de leur propre esprit. Saint Grégoire en a fait l'expérience. Hein? Et ils s'imaginent qu'ils les rendent en vertu du don de prophétie. C'est très beau, ça. Et c'est un discernement important. Alors, voici. Il y a deux manières pour Dieu d'instruire l'âme du prophète. La révélation expresse et suivant les termes de saint Augustin, une certaine impulsion que les hommes subissent, quelquefois même à leur insu. Donc, deux manières pour Dieu d'instruire l'âme du prophète. La révélation expresse. Dans la révélation expresse, le prophète possède la plus grande certitude des réalités qu'il connaît par le don de prophétie. Il tient aussi pour certain que ces réalités lui sont divinement révélées. « C'est en vérité, dit Jérémie, que le Seigneur m'a envoyé vers vous pour faire entendre à vos oreilles toutes ces paroles. Autrement, si les prophètes eux-mêmes n'avaient point cette certitude, la foi qui s'appuie sur leur allégation ne serait pas certaine. Nous avons un signe de la certitude qui s'attache à la prophétie dans ce fait qu'Abraham, après avoir été averti dans une vision prophétique, s'est préparé à immoler son fils unique, ce qu'il n'aurait point fait s'il n'avait été tout à fait sûr de la révélation divine. C'est sûr. Il est sûr que Dieu lui avait parlé. Il est sûr que Dieu lui avait donné ça. Il avait une certitude, une assez de santé. Mais dans l'impulsion prophétique, il arrive parfois que le prophète ne puisse pas pleinement discerner si ses paroles et ses pensées sont le résultat d'une inspiration divine ou de son propre esprit. Or, tout ce que nous connaissons par une impulsion divine ne nous est pas manifesté avec une certitude prophétique. Car cette impulsion divine est un degré imparfait dans le genre que constitue la prophétie. Et c'est en ce sens qu'il faut entendre les paroles de saint Grégoire citées plus haut. Cependant, pour que l'erreur, en ce cas, ne puisse se produire, comme l'ajoute saint Grégoire, au même endroit, le Saint-Esprit corrige au plus vite les prophètes en leur faisant entendre la vérité, et ils se reprennent eux-mêmes d'avoir tenu de faux discours. Ça, c'est très beau. C'est l'Esprit-Saint qui les corrige. Et c'est l'Esprit-Saint qui leur fait comprendre de façon nette que c'était peut-être pas vrai. Donc, je crois que ça, c'est facile, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Il y a une seule difficulté qui est toujours très difficile, c'est l'évidence inattestante. Le prophète est sûr d'être prophète. C'est toujours très cru. Le saint n'est jamais sûr d'être saint. Et le prophète est sûr d'être prophète. Un prophète qui prophétise, il dit « je prophétise ». Je vous affirme, c'est Dieu, c'est la Vierge Marie qui me dit. Et je vous le dis et je vous le transmets. Parce qu'il me demande de vous le transmettre. Et il y a un caractère impératif, invraisemblable chez les prophètes. Vous les considériez facilement comme des orgueilleux. Parce qu'ils en sont sûrs. Et ils savent qu'ils doivent le dire. C'est pas commode, mais Saint-Père reçoit des prophètes, Saint-Père tous les jours. Hein. Ils lui disent avec certitude que c'est ça. Pas comme, parce que, comme le pape n'en a pas parlé, et il y a peu qui m'ont parlé, je ne peux pas savoir comment le pape les a reçus. Parce qu'eux, ils sont sûrs que le pape les a reçus. Toujours. Ils projettent leur certitude sur celui qui le reçoit. Non. Ils sont sûrs, mais ils ont cette espèce de courage, si vous voulez, d'aller jusqu'au bout. Ils sont poussés comme par une épée. Ils sont obligés de le dire. Oui. Alors c'est en dehors de la prudence. Ça n'a rien à voir avec la prudence. Tandis que la notion du don des Saint-Esprits, c'est qu'on va au-delà de la prudence, mais que c'est encore prudent selon le don de conseil. Tandis que les charismes prophétiques font agir d'une façon radicalement imprudente. Le charisme est dans... C'est pour ça que le charisme, voyez, est beaucoup plus proche de l'art du Saint-Esprit. C'est la réalisation d'une œuvre. C'est pas du tout comme les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, c'est beaucoup plus du côté de l'amour. Et c'est une mouvance amoureuse, suavitaire et fortitaire. Tandis que la mouvance du prophète n'est pas une mouvance amoureuse. Saint Thomas dit à propos d'un... C'est dans, je ne crois pas qu'il le reprend dans la Somme, mais quand il se pose la question dans De Veritate, il y a un très beau traité sur la prophétie dans De Veritate, où Saint Thomas se pose la question, qu'est-ce qui est apte à la prophétie ? Et dit, la seule chose que Dieu demande au prophète, c'est un bon intérêt. Mais ça veut dire que si Dieu demande à un prophète d'agir en prophète, il lui demande un bon intellect. Pour agir en prophète, très grand. Il ne lui demande pas, si vous voulez, avoir un cœur grand. Alors pour un saint, c'est la grandeur du cœur. Pour le prophète, c'est la grandeur de l'intelligence. Et c'est la force de l'intelligence.